Le débat africain. Alain Foucault.
30 juin 1960, Léopoldville. Le Congo s'apprête en cette journée de saison sèche à vivre dignement le tournant de son histoire. À 11h précises, le président de la Chambre des représentants invite le roi Baudouin de Belgique à prendre la parole. Le jeune souverain n'est pas très à l'aise. Il n'a pas oublié que la veille, un badaud a osé arracher son sabre royal dans les rues de Léopoldville.
L'indépendance du Congo,
le roi Baudouin de Belgique,
constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale.
Au moment solennel où la République du Congo se présente devant
Joseph Kasavubu
et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, au moment où nous ressentons incessamment le caractère irrévocable et définitif du pas que nous franchissons, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, et demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants.
Cette indépendance du Congo,
Patrice Emery Lumumba,
si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais, Dieu de ce nom, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Vive les Congos indépendants et souverains.
Pourtant, 5 jours seulement après cette cérémonie solennelle, la fragile unité vole en éclats et le Congo plonge dans le chaos. 60 ans jour pour jour après cette accession à la souveraineté internationale, Dieu a-t-il éclairé ses dirigeants comme le demandait le président Joseph Kasavubu? Quel bilan dressé de ces 60 années d'indépendance? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain spécial 60 ans d'indépendance que nous organiserons tout au long de cette année où 17 territoires subsahariens ont accédé à la souveraineté internationale. Occasion de dresser un bilan objectif et sans concession. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Un anniversaire célébré ce mardi dans une ambiance de grande tension politique doublé d'une menace sanitaire avec le Covid-19. Plusieurs invités en direct de Kinshasa où devait initialement être planté ce studio. D'abord, Maître Eve Bazaïba, avocate au barreau de Kinshasa, députée nationale et consultante internationale en droits humains, secrétaire générale du MLC, le Mouvement de Libération du Congo. Bonjour Maître Eve Bazaïba.
Bonjour Monsieur Alain Foucault, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Notre second invité, toujours en direct de Kinshasa, est Maître Innocent Kongo, avocat d'affaires, ancien sénateur, président honoraire de la Chambre consulaire franco-congolaise. Bonjour Maître Innocent Kongo.
Bonjour Alain Foucault, bonjour tous les auditeurs de RFI.
Troisième invité de ce plateau, spécial 60 ans d'indépendance de la RDC, Alki Tengue, stratège géoéconomique congolais. Bonjour Alki Tengue.
Bonjour Alain Foucault et joyeux anniversaire d'indépendance à la République démocratique du Congo.
Pourvu qu'il soit joyeux. Notre quatrième invité est Floribert Anzoloni, coordinateur du mouvement citoyen Filimbi, qui est de retour au pays après 4 ans d'exil en Belgique, où il avait fui le régime de Joseph Kabila. Bonjour Floribert Anzoloni.
Bonjour cher Alain, bonjour aux autres co-débatteurs et bonjour aux auditeurs.
Alors j'ai envie de poser la question comme ça d'entrée de jeu. Quel bilan dressé de ce 60 ans d'indépendance du Congo? Je commence par Monsieur Innocent Kongo. Sur le plan politique et sécuritaire d'abord, ensuite on parlera des autres domaines.
Quel bilan dressé de ces 60 ans? Qu'est-ce que tu veux que je dise, cher ami Alain Foucault? Nous n'avons pas évolué. Joseph Kasavubu disait, nous avons conscience de la gravité de nos responsabilités, ça vient d'être rappelé. Lumumba avait dit l'indépendance, l'accession à l'indépendance, c'est un combat que nous avons acquis de haute lutte. Mais je dois reconnaître que nous n'avons pas beaucoup évolué. Le chantier est resté en l'état.
Alors certains disent le chantier n'est même pas resté en l'état. Et là je me tourne vers Alki Tengue. Certains disent on a reculé. C'est un vrai recul, c'est-à-dire qu'on aimerait même retourner 60 ans en arrière.
J'ai souvent entendu ce genre de choses.
pour revenir un petit peu sur ce que tu dis, sur le plan sécuritaire, nous avons 140 groupes armés à la sortie du président Joseph Kabila. Il en reste une centaine et ce matin encore, la Ligue congolaise contre la corruption publiait justement des productions d'or et éventuellement des exportations des pays voisins. Et lorsque vous regardez ce genre de choses, vous vous dites « oui, bien sûr, on a accédé à l'indépendance politique et administrative, mais on n'a pas accédé à l'indépendance économique ni scientifique. Nous avons un leadership politique dangereux qui a consacré la fracture sociétale entre l'urbain et le rural en permanence. Nous avons développé une culture coloniale contre nos propres frères, ce que nous appelons les villageois et les gens que nous appelons de l'intérieur, en similitude avec le tiers-monde dit par les occidentaux. On nous appelait indigènes, nous appelons les pygmées des autochtones. En fait, nous reproduisons exactement ce que nous avons déploré avec nos amis occidentaux, nous le reproduisons sur nos propres frères. Alors si vous me posez la question de savoir si on a vraiment évolué, ça dépend de où vous êtes et qui vous êtes.
Même constat, Eve Bazaïba.
Oui, tout à fait. Le bilan est mitigé. Ce qui est vrai, c'est que l'indépendance, la souveraineté nationale, c'est un acquis. On ne peut pas y revenir. Mais c'est un problème de gouvernance et de leadership qui, aux yeux de l'opinion et de ce que nous vivons actuellement, nous avons ce bilan mitigé parce qu'on a été colonisé par la Belgique du point de vue politique, du point de vue sécuritaire. Aujourd'hui, la colonisation est visible parce que nous sommes assiégés, nous sommes occupés. Nous avons 9 voisins et nous sommes l'objet d'attaques de 8 voisins successivement. Donc il n'y a pas une autonomie, il n'y a pas une indépendance en termes sécuritaires. Politiquement, tous les leaders politiques s'orientent vers l'extérieur, cherchent la légitimité à l'extérieur. Depuis que nous avions connu les élections de 1960 jusqu'à ces jours, on n'a pas encore un dirigeant, un leader au sommet de l'État qui a recueilli la légitimité du peuple. D'où la problématique de l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs qui constituent une des causes qui nous fait dans les surplus, on crée même atteindre les objectifs de développement durable aujourd'hui.
Le président Kasavubu, à l'annonce de l'indépendance, disait que Dieu éclaire les dirigeants du Congo. Floribert Ansoulouni, avez-vous le sentiment que Dieu a oublié les leaders du Congo qui n'a éclairé personne?
Oui, je dirais plutôt que nous sommes en tant que Congolais oubliés. Le 30 juin devait marquer la libération de tout un pays, l'aboutissement d'une lutte qui a été porté par nos pères de l'indépendance, et Lumumba et les autres, mais également la renaissance, le début de la renaissance du Congo. Mais malheureusement, cette première grande victoire n'a pas été pérennisée, elle n'a pas été renforcée, et donc, comme le dit Mme Bazaïba, elle n'a pas permis d'aboutir à une véritable indépendance politique et économique. Aujourd'hui, c'est une indépendance de façade, et en quelque sorte, c'est un véritable échec. Nous devons maintenant apprendre à nous réapproprier, je pense, progressivement, cette lutte et nous réapproprier notre pays, et je pense que nous irons de l'avant.
Alors, lorsque vous dites on va apprendre à se réapproprier notre pays, comment cela se passe déjà? J'ai envie de commencer sur le plan politique. Vous dites on est indépendant, mais lorsqu'on entend les Congolais, la plupart des Congolais, dès qu'il y a un souci, ils disent c'est la faute des autres, c'est la faute des pays étrangers, c'est la faute de l'Occident, c'est la faute des voisins aujourd'hui. Est-ce qu'il y a réellement encore une présence étrangère dans ce pays qui soit occidentale et qui influe sur l'environnement politique du pays, Eve Bazaïba?
Tout à fait. Il y a une présence étrangère qui influe et c'est de deux manières. D'abord, il y a l'extérieur qui est très préoccupé par qui va être le dirigeant en République démocratique du Congo par rapport à ses intérêts.
Qui sont ces États qui se préoccupent de cela? Il faut dire les choses comme elles sont.
Personne ne peut être élu président de la République en République démocratique du Congo s'il n'y a pas une mainmise des États-Unis, il n'y a pas une mainmise des pays, des grands pays, disons les 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, en essayant un peu de faire un bémol sur la Chine et la Russie. Mais tout le reste des pays avec lesquels on collabore, je voudrais dire que d'abord, l'attitude de ces États-là par rapport à leurs intérêts, par rapport aux ressources que regorge la République démocratique du Congo, et aussi l'attitude de ces fameux dirigeants qui cherchent la légitimité à l'extérieur, en étant entendu que tous les dirigeants qui ont la légitimité intérieure ont du mal à s'émerger et à se faire asseoir. Le cas de Lumumba, nous l'avons connu, au lendemain de l'indépendance, qu'est-ce qui est arrivé? Une série de conflits. Donc, Lumumba qui avait l'ancrage national, il ne lui a pas été permis justement de prendre les sommets de l'État, il y a eu des négociations pour lui donner le second rôle, de sorte qu'une personne qui n'a qu'une partie, le président Kasavubu, on lui donne et on sait les tirer, on sait tirer les ficelles à tout moment. Mm-hmm. Quand Lumumba a insisté, nous avons connu. Et la série a continué jusqu'actuellement.
Moi, je parlais déjà de l'influence étrangère. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui se passe est déjà du fait de cette influence étrangère, Innocent Congo? Est-ce qu'on n'exagère pas un peu en disant toujours « c'est la faute de l'Occident dans ce coup-là, au Congo »
Cher Alain Foucault, il y a du vrai dans ce que dit Eve Bazaïba, mais en même temps, nous ne pouvons pas continuer année après année à stigmatiser l'ingérence extérieure. Sinon, elle n'arrêtera jamais. Voyez-vous, il y a peu, sinon encore, aux États-Unis, on dit que la Russie s'était impliquée dans l'élection présidentielle passée. Ça n'arrêtera jamais. Les juristes disent que l'intérêt est fait la mesure de l'action. Et donc, l'ingérence étrangère finalement, par rapport où ce qui guide les États dans les relations entre eux, c'est leur intérêt, l'ingérence extérieure ne s'arrêtera jamais. C'est à nous, Congolais, comme cela vient d'être dit, de nous approprier notre souveraineté, de nous approprier notre sort, de nous approprier les destinées du pays en faisant quoi ? En nous assumant de façon à éviter l'ingérence extérieure. Regardez, depuis 1960, qu'est-ce qu'il y a eu ? Nous avons eu plusieurs assises, nous avons eu plusieurs crises, mais au lendemain de chacune de ces assises, qu'est-ce qui s'était passé ? Une autre crise venait. C'est aux Congolais de s'assumer, de s'asseoir à un moment donné. Je ne parle pas d'assises qui visent la distribution des postes par la suite, mais ces assises qui rentre dans ce qu'on appelle, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle en économie la théorie des perspectives. À un moment donné, nous devons nous poser la question de savoir est-ce que la voie que nous avons suivie jusqu'ici est la bonne? Est-ce que la manière dont nous avons géré nos élections est la bonne? Est-ce que, à l'occasion, par exemple, de ce qui arrive, des chocs économiques que nous amène la COVID-19, est-ce que la solution, c'est un programme donné, c'est un plan donné, ou est-ce que la solution, c'est de réfléchir et d'adopter un mode de développement, un modèle de développement économique où l'on verrait un état stratégique qui conduirait le pays vers le développement économique.
Et mais donc, là, j'ai envie de dire qu'on soit très très concret, qu'au terme de cet entretien, de cette émission, on ait au moins des pistes qu'on va suivre qui soient très très concrètes. Là, tout le monde dit ingérence étrangère, pointe du doigt les pays occidentaux, mais aussi les pays de la sous-région. Est-ce que si ces pays rentrent aussi, comme le Rwanda, comme les 9 voisins dont on a parlé, des 9 voisins, il y en a 8 qui sont sur le territoire. Est-ce que si ces pays qui sont plus petits que le Congo rentrent dans le territoire, ce n'est pas simplement parce que il n'y a pas assez d'amour des Congolais pour leur pays. Il n'y a pas le sentiment national, Floribert Anzoluni.
Les causes de cette situation sont tant endogènes qu'exogènes. Je dis exogène pourquoi ? Parce que n'oublions pas que historiquement, le Congo a toujours été considéré un petit peu comme un patrimoine mondial. Une espèce de zone de libre-échange où les intérêts multiples se sont accordés pour pouvoir exploiter les différentes richesses dues à la position géostratégique du Congo et au potentiel en termes de ressources. C'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Et cette réalité s'est poursuivie depuis notre colonisation par Léopold, depuis la colonisation par les Belges, et ensuite elle s'est poursuivie depuis l'indépendance. Et donc cette réalité-là, il faut en tenir compte. Mais ces groupes-là profitent de quoi, en réalité? Ils profitent avant tout de notre propre faiblesse. Ils profitent avant tout de l'existence ou de l'inexistence dans notre propre pays d'un leadership suffisamment patriote, d'un leadership suffisamment visionnaire. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui se sont succédés, qui n'ont pas eu comme le développement comme souci, qui sont eux-mêmes à la base de cette situation, qui ont abusé de la corruption. Un petit groupe de personnes nous a pris en otage. Les ressources sont dilapidées. Et donc les divisions internes que cela engendre permet justement aux différents intérêts extérieurs de pouvoir en profiter et de les utiliser pour leurs propres intérêts. Ben, quand vous parlez des pays de la région, c'est tout à fait normal. Tous les États, vu le positionnement de la RDC, il y a 9 pays voisins, ben, ces États ont chacun des intérêts, absolument, autant sécuritaires, économiques et politiques, donc influence.
Mais c'est Angola, à le Sud-Soudan qui est entré en Ituri, la RCA qui est aussi au Congo, même les plus petits sont entrés sur le territoire, ça montre bien qu'il n'y a peut-être pas ce sentiment national qui devrait permettre d'être un peu plus jaloux de vos, on va dire, de vos richesses.
Tout à fait, mais c'est ça le problème. Encore une fois, c'est le leadership qui doit impulser, comme dans toute chose, qui doit impulser une vision qui nous ramène justement à cet amour de la patrie, une vision qui remet en avant l'intérêt du bien commun vis-à-vis des intérêts personnels et une vision de développement suffisamment appropriée pour ne pas laisser justement tous ces intérêts multiples qui sont, c'est de bonne guerre comme on dit, nous marginaliser ou nous exploiter de manière négative.
Alors aujourd'hui, on est encore dans une crise politique intense, très très forte, où on redoute même que tout parte en désordre dans les prochains jours. Je me tourne là vers Alky Tengué. Comment faire pour sortir de cela, puisque c'est le politique qui est au début et à la fin de tout ce désordre, si l'on écoute toutes les analyses qui ont été faites? Comment faire pour en finir?
Je crois qu'il faut retenir deux choses importantes. La première, nous sommes dans une phase d'apprentissage. Nous sortons d'un type de mécanisme de gestion vers un autre type de mécanisme de gestion.
Ça fait 60 ans quand même.
Nous sortons d'une situation où l'impunité était la règle, où les politiques avaient une confiscation totale de tous les pouvoirs et où malheureusement la corruption était la règle et elle était plus ou moins admise. Je crois qu'il est temps que nous nous arrêtions maintenant parce qu'on doit se rendre compte que les conséquences sont catastrophiques, ça ne profite à personne. Et la crise du Covid-19 a démontré même à ceux qui ont beaucoup d'argent en poche qu'ils ne pouvaient même pas sortir pour aller se faire soigner ailleurs. Et donc, de plus en plus, il devient clair que notre sort est un espace de partage, notre prospérité ne peut être que partagée, et si on désire progresser, on ne peut progresser qu'ensemble. Et ici, je voudrais remettre en question un petit peu l'approche de mes co-débatteurs sur la question des richesses en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas espérer pouvoir évoluer tout seul et laisser tous les voisins par terre. La seule chose, c'est que sous notre leadership, nous devons être en mesure de donner des opportunités à nos partenaires. Je donne un exemple simple. Nous avons un potentiel hydroélectrique extrêmement important, capable de développer de manière intensive la République et une très grande partie du continent. Faute d'avoir un projet et une réalisation sérieuse, nous gardons le pays par terre, nous trompons en pensant que nous pouvions nous développer avec les mines et on s'aperçoit...
On va en parler dans la partie économique. Je voudrais qu'on se concentre sur ce qui est politique pour l'instant. Comment sortir de cette impasse? Comment faire pour qu'enfin il y ait une vraie gouvernance dans ce territoire-là, Eve Bazaïba?
Pour avoir une vraie gouvernance, il faut avoir des gouvernants qui seront l'émanation réelle de la légitimité du peuple.
Une fois qu'on a dit ça, ça se matérialise comment?
Ça se matérialise en ce sens que lorsque nous avons des élections, je prends l'exemple des élections de Lumumba et les dernières élections. L'élection de Lumumba qui avait l'ancrage national, il aurait fallu que Lumumba fût le citoyen numéro un de la République. Il va donner son impulsion, il sera écouté. Pour le moment, tout le monde connaît les résultats des élections où il y a eu un élu de la population, mais les choses se sont retournées en termes d'antivaleur. Celui qui dirige n'a pas justement cet accompagnement, cette légitimité. Il peut tout faire, il n'a pas l'accompagnement. Il est redevable plutôt à celui qui l'aura placé là-bas. Parce que les liens de redevabilité entre les dirigeants, entre un gouvernant, un leader avec son peuple, le fait retourner vers le peuple pour s'occuper du bien du peuple. C'est ça la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Mais ce que nous vivons, c'est le pouvoir d'un individu pour un individu et par un individu ou un groupe d'individus. Du coup, il n'y a pas l'accompagnement. Et nous vivons justement cette question de dichotomie entre les ressources de la République démocratique du Congo et la pauvreté criante. Nous sommes déclarés pays pauvres et très endettés. On en parlera en détail lorsque nous allons aborder le sujet de l'économie. Donc, il n'y a pas de lien de redevabilité entre les dirigeants et le peuple. Il sait qu'il est là, ce n'est pas par rapport au peuple qui ne l'a pas élu,
mais par rapport à un individu ou un groupe d'individus.
Certains disent le pays est beaucoup trop vaste puisque c'est le second plus important pays sur le continent après l'Algérie en termes de superficie, qu'il est beaucoup trop grand et qu'il faudrait peut-être penser à le diviser. Certains pensent à la sécession, d'autres pensent à un fédéralisme fort. Qu'en pensez-vous, Al-Kitenge?
Non, je vais dire quelque chose sur ce que a dit tout à l'heure Eva Zaïba avant de répondre à ta question. Nous avons dans ce pays une succession d'hommes politiques. Eva Zaïba sait très bien que nous avons même eu à un moment donné 1 plus 4, ça veut dire en fait, nous avions une situation où tous nos politiciens étaient dans la même marmite.
Absolument.
Même en ce moment-là, le résultat était...
Un président et 4 vice-présidents, oui.
Tout à fait. Et le comportement humain des hommes politiques était exactement le même et honteusement ridicule. Je crois simplement que toute notre classe politique, tout entière, devrait avoir l'humilité de se taire des fois. Moi, j'ai toujours tendance à dire... On a tendance à être intelligent quand on est à l'opposition et c'est inacceptable. Deux choses importantes, c'est que on ne peut pas continuer à penser que toute la gestion d'un pays n'est que politique. Vous savez, dans notre pays, pour devenir recteur d'une université, il faut être d'une obédience politique. Vous désirez devenir médecin directeur d'un hôpital public, vous devez être d'une obédience politique. Ce comportement doit s'arrêter. C'est surtout cette question de la confiscation de l'État de manière complète par les politiques qui fait malheureusement que la gestion n'est pas correcte. Et je voudrais revenir sur quelque chose de très simple.
Rapidement, parce que sur la question de fédéralisme, je souhaite avoir une réponse.
La réponse est très claire. Nous sommes un pays par définition décentralisé. Il faut effectivement laisser les pouvoirs statutaires et reconnus par la Constitution aux différentes entités territoriales décentralisées. C'est la seule façon de faire les choses. Cette tendance qu'ont les gens qui sont au gouvernement central ou dans les institutions centrales à vouloir garder tous les pouvoirs et tout l'argent détermine simplement l'incompétence que nous avons à pouvoir tenir une société équitable. Dès le début, je vous ai dit que la plus grosse difficulté, c'est que nous avons pris nos propres frères en colonisation. Pour nous, 20% de la population qui vit en milieu urbain pille systématiquement les 80% qui vivent en milieu rural. Nous reproduisons exactement le même comportement que les Belges ont reproduit sur nous, nous le reproduisons sur nos propres frères, et ça c'est le fait systématique de nos hommes politiques.
Alors je voudrais qu'on parle économie maintenant, puisque le temps tourne vite. La RDC est le deuxième plus vaste territoire d'Afrique après l'Algérie. Il s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et correspond à la majeure partie du fleuve Congo. Le Nord est un des plus grands domaines de forêt équatoriale du monde, avec 80 millions d'hectares de terres arables. Comment expliquer qu'avec toute cette richesse, le Congo soit obligé d'importer autant de vivres, que le Congo ne soit pas autosuffisant? Maître Innocent Kongo?
Alain Foucault, je crois que nous tournons autour du pot. Nous tournons autour du pot pourquoi? Parce que si le leadership n'est pas bon, si la gouvernance n'est pas bonne, la question du niveau de développement économique n'arrêtera pas de s'opposer. J'ai envie de dire quoi? J'ai envie de dire ceci, c'est qu'il faut sortir de l'impasse. Et le débat que nous avons eu n'est pas arrivé à son terme dans le sens de dire qu'est-ce que nous faisons exactement pour sortir de l'impasse? Moi, j'ai envie de dire, et je vais rebondir sur la question économique, j'ai envie de dire ceci. Puisque telle est la situation, puisque apparemment nous ne donnons pas la preuve d'avoir l'amour de notre pays, je pense que ce qu'il nous faut, c'est le pacte social. Quel est le pacte social dans ce pays? Le pacte social, c'est le pacte qui doit exister entre les dirigeants et les gouvernants et les gouvernés. C'est les gouvernés. Et donc, moi, je dis ceci. Nous devrions nous asseoir, tous, dans une rencontre dont les termes de référence ne seraient pas à terme le partage des responsabilités politiques, le partage des postes politiques, mais c'est une rencontre qui nous permettrait de convenir d'un cadre de gouvernance, d'une vision d'abord, d'un cadre de gouvernance et d'un cadre qui permettrait que ceux qui viennent à la tête du pays pour le gouverner soient des personnes qui sont désignées, qui sont élues, suivant le consensus que nous aurons mis en place. Et à ce moment-là, le reste va suivre. Nous aurons convenu des règles, Bazaïba parlait de redevabilité, des règles qui permettront de faire en sorte que la redevabilité sera effective, qui feront en sorte que la sanction populaire lors des élections sera effective. Et à ce moment-là, on peut parler du développement économique. Alors, développement économique. Moi, ce que je dis, c'est ceci. Le pays a connu beaucoup de plans. Le pays a connu beaucoup de programmes. Résultat des courses, On fait du surplace. Et donc, moi, je dis ceci. Ce qu'il nous faut, dès lors que le préalable politique a été réglé, ce qu'il nous faut, c'est un modèle de développement. Lorsque vous lisez le code des investissements, qu'est-ce que vous y trouvez? Vous y trouvez une division du travail où il est dit que l'État met en place le cadre de régulation, assure la régulation, le secteur privé, lui, se charge de créer la croissance et de créer les emplois, la société civile, bien entendu, c'est pour la veille, hein, assurer la veille au profit de la population. Mais est-ce que c'est ce seul modèle que nous développons qui aura montré ses limites? Nous devons nous asseoir pour dire quel modèle de développement nous mettons en place.
Mais nous, on dit ça depuis tellement d'années, on va s'asseoir, et il y a eu une conférence nationale, il y a des débats en permanence, on multiplie des forats à n'en plus finir. Je voudrais qu'on soit très très concret. Un peuple qui n'arrive pas à se nourrir ne peut pas aspirer à la dignité ou au respect. Commençons par l'agriculture, par exemple, dans ce pays-là, pays aux multiples potentialités agricoles. La République démocratique du Congo peut produire pour nourrir toute l'Afrique. Pourtant, le Congo-Kinshasa dépend toujours de l'importation des produits alimentaires de base pour nourrir sa population. Alors, est-ce qu'il ne faut pas commencer par là? Et je pense que même les privés peuvent s'y lancer. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord penser à cela, Floribert Anzuluni?
Ben, écoutez Alain, je pense que pour nous c'est très simple. Il faut détruire le système de gestion qui existe dans ce pays depuis des décennies, je dirais même depuis pratiquement l'indépendance. Le problème est à ce niveau-là. Nous avons un système qui a été mis en place qui ne favorise pas, qui ne met pas en priorité le développement du pays. Je vous pose une simple question. Il y a des plans qui ont été développés, je suis d'accord. Mais vous pouvez m'expliquer comment est-ce que dans un pays, vous pouvez développer un plan approprié, développement approprié et réaliste, lorsque vous n'avez même pas encore identifié votre population? Donc je vous dis qu'aujourd'hui au Congo, il est impossible d'identifier la population. Qu'est-ce que nous attendons pour mener cette action-là? Nous n'avons pas d'identité, nous ne pouvons pas identifier nos populations. Comment mettre en place un plan de développement dans l'agriculture, les différents segments, qui sera approprié? Ça n'a pas de sens. Il y a un système dans lequel l'ensemble de la classe politique depuis l'indépendance est noyée. Ce système-là est un système matérialisé par le népotisme et détournement de fonds, un petit groupe de gens qui prend tout le monde en otage. Et c'est ce système qu'il faut détruire. Et pour être un peu plus concret, ça part par où? D'un autre point de vue, il faut éveiller les consciences, c'est ce que nous essayons de faire, conscientiser la population, parce que c'est le seul moyen. Il n'y a que la population qui peut imposer justement la destruction de ce système-là.
Oui, mais là, on a une population de 80 millions, on va dire 80 millions d'habitants, tenue par ce petit nombre qui souffre. Concrètement, comment il fait? Comment on s'en sort? Comment on améliore la condition de vie des gens? Au bout de 60 ans, on doit être capable de se projeter dans l'avenir. Parce que là, on fait des constats et on se rend compte que c'est catastrophique, c'est vrai. Mais c'est quoi la solution? Là, je me tourne vers Eve Mazaïba.
Oui, merci beaucoup. Du point de vue économique, c'est vrai, c'est une honte pour nous avec 80 millions de terres arables, vous l'avez dit. Que,
dont 10% seulement sont exploités.
Exactement, 10% seulement exploités. Nous sommes en train d'importer tout, du riz, des haricots, des maïs et tout. Nous en recevons même en termes de dons des îles, des pays et des petites îles qui nous donnent des dons du riz et nous applaudissons. C'est vrai, je suis désolé de revenir encore à l'indépendance. Vous savez, un co-débatteur, M. Al-Kitenge, a bien dit, et même Anzuluni, que nous focalisons tout vers la politique. Absolument. Nous oublions que pour être fort en politique, c'est l'économie d'abord. Mmh. Et c'est l'agriculture qui peut nous donner la production, qui peut nous donner une certaine autonomie, l'indépendance, qui va nous donner aussi la liberté politique de décider pour notre propre sort. Donc la solution actuellement, c'est de changer les paradigmes que nous avions hérités de nos pères de l'indépendance, je voudrais dire.
Chacun est d'accord pour changer, mais on change ça comment concrètement?
Je dis changer les paradigmes, d'abord comment, il faut savoir c'est quoi ces paradigmes. C'est que nous avions eu la conférence, la table ronde économique à Bruxelles en avril 1960, pendant que les pères de l'indépendance étaient occupés à des questions politiques dans leur campagne. Les étudiants, trois étudiants, Mario Philippe Cardozo, Albert Ndele, Jean Sélé, avec le Joseph Désiré Mobutu qui était venu du Congo, ont tenu la réunion face à des délégués belges qui ont dirigé le pays pendant 80 ans. Donc ils avaient l'économie en main, ils avaient la maîtrise du dossier et nous, nos jeunes Congolais inexpérimentés en position de demandeurs, et les résultats de cette conférence, c'est que économiquement,
on n'a même pas su qu'est-ce qui fait qu'on était en son temps les grands exportateurs de caoutchouc, de coton, de cacao, et il y avait une agriculture d'autosuffisance alimentaire. Lorsque la Belgique a tout pris du portefeuille de l'État pour remettre au privé, les résultats est que nous avons balbutié. Les quelques résidus ont permis à la République démocratique du Congo en 72 d'avoir un Zaïre qui était égal à 2 dollars parce qu'il y avait justement la continuité de la production. Mais lorsque nous avions pensé à la zaïrianisation, n'est-ce pas, essayer de déposséder tous ceux qui avaient les grandes plantations et qui avaient l'agriculture entre les mains, c'est là où nous avons commencé à dégringoler. On a donné à des gens qui s'appelaient des acquéreurs, ceux qui n'avaient aucune vision d'une plantation, si ce n'est de dire cette plantation vaut combien, je prends l'argent, je mets dans mes poches, je suis devenu riche. Donc nous devons maintenant revenir, changer ces paradigmes, c'est-à-dire nous focaliser plus à l'économie, avoir un budget, je suis au Parlement, orienter le budget à l'économie, notamment l'agriculture, la production, diversifier l'économie du pays, ne pas se focaliser seulement aux minerais, et même s'il y avait ces minerais, avant que ça puisse sortir, il faut en donner une valeur ajoutée sur place en termes de non seulement exportation, mais aussi transformation. Je pense que c'est à ce moment-là que nous allons devoir renflouer les caisses de l'État.
Évidemment, mais qui doit le faire? Est-ce que c'est l'État qui doit le faire ou bien les privés peuvent se lancer dans ce domaine qui est celui de l'agriculture quand même, non?
Il y a deux volets. C'est vrai qu'il n'y a plus d'État-providence, mais l'État donne l'impulsion. Quand je parle de budget, pour soutenir les privés, il faut qu'il y ait un budget de subvention en termes d'agriculture. Si des individus, quelqu'un comme Moïse Katumbi peut faire des hectares, 150 000 hectares de maïs, et l'État ne peut pas subventionner le ministère d'Agriculture. Si le ministère d'Agriculture doit remettre des tracteurs aux politiciens qui en sortent les machines, les transforment en moteurs de baleinières ou des autres embarcations de navigation de fortune. On ne donne pas aux agriculteurs, on ne donne pas aux planteurs. Si dans ce pays, quelqu'un comme moi, je propose une loi sur l'activité semencière, on ne prend pas ça en valeur. Alors que les projets de Bukangalos, on nous vend des semences de 8e génération. Qu'est-ce qu'on va produire? Il n'y a aucune loi, aucune mesure où toutes les semences viennent de partout. On ne sait pas les gérer. Donc il y a des activités qu'on peut le faire multisectorielles. Il y a les routes et les têtes agricoles. Par exemple, le peu que produisent les privés, les individus, on ne sait pas les évacuer.
À cause des routes, parce qu'il manque d'infrastructures. On a le sentiment que, puisqu'on a dit la RDC est considérée comme un véritable scandale géologique, tant son sous-sol, très riche, regorge de ressources minérales, cuivre, premier producteur en Afrique, cobalt, premier producteur mondial, coltan, or, diamant. Est-ce que finalement, ce minerai-là ne représente pas le malheur du pays Al-Kitenge?
Alain, je crois qu'il y a quelque chose de très simple à faire comprendre à tout le monde, c'est que vous savez, lorsque vous faites des politiques publiques qui ne sont pas orientées vers des résultats bien déterminés, c'est très difficile de donner des résultats. J'aurais dit ici tout à l'heure que la décentralisation est très importante. Quand on parle du secteur minier, par exemple, il n'y a pas une ligne répartie à égalité sur toutes les tendues de la République. Il y a des provinces qui sont plutôt à grande vocation agricole, d'autres à grande vocation minière et d'autres à grande vocation chimique. La seule chose que je dis, c'est que lorsque vous ne mettez pas tout ça dans un plan stratégique nationale, avec des plans provinciaux et des plans locaux, il est très difficile d'agir de manière cohérente. Par contre, une chose qui reste vraie, c'est qu'il n'y a aucune mine que vous pouvez développer si vous n'avez pas d'énergie. En 2002, nous avons mis en place un nouveau code minier pour favoriser l'émergence de l'exploitation minière. Bêtement, on s'est rendu compte quelques années plus tard qu'on n'avait pas assez d'énergie pour les faire tourner. On a continué à creuser et envoyer à l'extérieur des matières premières, ce qui est complètement ridicule et une insulte à notre intelligence. Mais je pense simplement que ceci est encore beaucoup plus grave lorsque vous vous rendez bien compte que nous sommes assis sur un potentiel énergétique qui peut développer non seulement la République démocratique du Congo, mais également le continent entier. Je pense qu'il est important qu'on reconnaisse notre erreur stratégique en termes d'approche et qu'on se rende compte que si nous avons un avantage comparatif sérieux, ce ne sont pas les mines, ce ne sont pas les produits forestiers, ce ne sont pas les produits pétroliers, c'est le mix énergétique qui est d'une disponibilité incroyable et qui n'est tout simplement pas mise en valeur.
Avec le sacré projet d'Inga qui est un peu le serpent des mers, qui aurait pu électrifié toute l'Afrique quasiment, mais qui ne marche toujours pas, qui reste toujours un projet plus de 60 ans après.
C'est une honte. Et si nous avons de l'énergie répandue sur toute l'étendue de la République, même l'agriculture dont vous parlez va être améliorée parce que nous n'aurons pas l'agriculture tout simplement, nous aurons l'agro-industrie et les chaînes de valeur ajoutée. Nous n'aurons pas nécessairement l'exploitation forestière en coupant des arbres que l'on exporte vers l'extérieur, on aura toute la chaîne de valeur du secteur forestier. Laissez-moi vous donner juste un exemple. Le jour où la République démocratique du Congo va décider de chausser des militaires et des policiers avec de la chaussure fabriquée en République démocratique du Congo, nous aurons créé énormément d'entités de production, mais nous aurons surtout créé l'industrie de la peau, les tanneries. Et si nous créons l'industrie des tanneries, nous créerons des grands cheptels de bétail. Et si nous avons des grands cheptels de bétail, nous aurons une grande agriculture pour alimenter ces bêtes. Et vous vous rendez bien compte qu'une seule décision qui relève de la politique publique peut simplement engager une série d'opérations qui peuvent remonter le pays d'une manière tout à fait sérieuse.
Alors, Innocent Congo, on a souvent parlé de la richesse minière du Congo, mais on a le sentiment que ça ne profite pas au Congo. Comment on fait pour qu'enfin ces richesses minières profitent réellement aux populations?
Alain Foucault, depuis que nous sommes là, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de constater de façon consensuelle que les choses ne marchent pas, quoi que nous ayons fait. Et la question que tu as posée, concrètement, on fait quoi? Nous n'y répondons pas encore.
Pour l'instant.
Moi, je dis ceci. Qu'est-ce qui se passe? Quand on parle de relations des ressources naturelles, on a tendance à oublier, Alain Foucault, que la première des ressources naturelles, c'est l'homme, c'est l'humain. Et donc, la première ressource que nous devrions mettre en avant, c'est l'homme, et pas le cuivre, et pas le cobalt, et ainsi de suite. Moi, ce que je dis, c'est ceci. Puisque nous savons ce qui ne va pas, nous avons fait le diagnostic. Chaque Congolais, quel qu'il soit, peut faire le diagnostic. Les solutions, nous les connaissons puisqu'il y a eu des laboratoires et des laboratoires pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce pays marche. Mais ça ne marche pas. Lorsque nous prenons une loi tactique, stratégique, qu'est-ce qui fait que cette loi ne marche pas? C'est, j'y reviens, le pacte social. C'est le pacte social. Tant que le politique n'a pas été réglé, qui est un préalable fondamental, ça ne marchera pas. Oui, c'est vrai, nous avons eu des astuces. Oui, c'est vrai, il y a eu des plans, des programmes, des cadres stratégiques et ainsi de suite. Mais puisque nous avons toujours échoué, la question, c'est de se poser la question de savoir pourquoi nous avons toujours échoué. C'est là que nous remontons vers le cadre politique. Je dis ceci, nous devons nous asseoir pour nous dire les choses en face, pour faire en sorte que nous ayons une règle fondamentale que tout le monde respecte, la Constitution, pour que nous ayons des lois que tout le monde respecte, pour qu'il y ait une adhésion partagée des gouvernés vis-à-vis de ce que les gouvernants nous imposent comme décision, mettent en place comme mesure d'application.
Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vous avez le sentiment que les dirigeants que vous avez accepteront un jour de s'asseoir autour d'une table pour remettre les choses à plat? On a le sentiment, lorsqu'on écoute même ce qui se passe ces derniers jours à Kinshasa, qu'on en est très très loin, qu'on s'en éloigne.
Je ne pense pas. Puisque nous en avons eu ces assises dans le passé, nous pouvons les avoir. La seule question, je parlais de théorie de perspective tout à l'heure, je reprends cette théorie pour dire quoi? Est-ce que tel que nous l'avons fait dans le passé, c'est comme ça qu'il fallait le faire? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, devant les échecs qui sont une expérience à capitaliser, est-ce que nous ne faisons pas les choses autrement? Est-ce que nous n'adoptons pas de nouvelles perspectives qui nous permettent d'arriver vers un cadre qui fera en sorte que le code minier sera respecté, la loi sur les hydrocarbures sera respectée, de façon telle que finalement les ressources naturelles mise en valeur, profite en premier aux Congolais.
Alors, tout à l'heure, on parlait des mines. Et là, j'ai envie qu'on en parle. On ne peut pas parler des 60 ans sans parler des mines qui sont peut-être la cause de toutes les crises dans les régions, notamment de l'Est du Congo. Comment en sortir, Floribert Anzouluni?
Oui, Alain. En fait, il est normal que la multiplication, finalement, des ressources potentielles minières et autres, agricoles et autres, implique également la multiplication des crises, la multiplication des intérêts qui vont converger ou diverger. C'est un fait. Mais je reviens sur le point de mes prédécesseurs. Je pense que c'est fondamental. Tant que vous n'avez pas un leadership, il y a une vision, il y a un plan clair. Et je vous donne un exemple très simple. Vous êtes dans un pays, moi je suis banquier professionnellement, j'ai dirigé un département de risque pendant 4 ans. Ah, je le sais très bien, l'économie de ce pays est détenue à plus de 90% par qui?
Il n'existe pas de classe économique nationale. Mais comment voulez-vous développer ce pays sans une classe économique nationale? Les investisseurs que nous avons dans ce pays, dans la grande majorité des citoyens, c'est quel genre et quelle qualité d'investisseurs que nous avons dans ce pays? Mais qu'est-ce qui est à la base de cette situation? C'est le leadership, encore une fois, les différents leaderships que nous avons à la tête de notre pays.
Au-delà du leadership, Floribert Anzoulouni, est-ce qu'il n'y a pas aussi la formation même des Congolais? Certains ont pu dire que les Belges sont partis sans avoir suffisamment formé les Congolais. Est-ce qu'on peut dire ça 60 ans après?
Je ne dirais pas qu'il y ait un problème de qualité en termes de formation. Les Congolais se sont formés non seulement au Congo, beaucoup de gens sont bien formés, même si le système éducatif est atteint depuis quelque temps. Et puis, il y a énormément de Congolais qui sont allés dans la diaspora. Par contre, il y a un aspect très important en termes d'éducation, c'est que on a l'impression que notre système éducatif, effectivement, ne s'est pas réapproprié notre propre histoire. Le système éducatif n'a pas permis de recréer un homme ou de créer un homme congolais qui favorise, qui pourrait également favoriser ce développement. C'est vrai qu'on ne peut pas simplement se limiter aux dirigeants. Il faut que l'homme congolais lui-même puisse avoir les qualités nécessaires, les valeurs nécessaires, les principes nécessaires, l'amour du pays et ainsi de suite pour développer le pays. Mais jusqu'aujourd'hui au Congo, les manuels, la plupart des manuels que nous avons ici au Congo, sont des manuels légués des colons. Donc il n'y a pas eu non plus une réappropriation à ce niveau-là. Et d'où le développement pourrait être affecté, est affecté par toute cette réalité-là.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, très concrètement, on ne devrait pas mettre un accent dessus, Eve Bazaïba, sur la formation des jeunes, pour changer les paradigmes dont on parle?
Je ne pense pas que la formation en cette matière soit un problème, c'est plutôt une volonté politique. Parce qu'en termes de formation, les Belges sont partis, ont laissé très peu d'universitaires, d'experts, mais on s'est formé 60 ans durant. Il ne faut pas une formation pour savoir que 47 millions, on ne construit pas des maisons préfabriquées. 15 milliards de la République, vous ne prenez pas, vous amenez au Panama. 15 millions, on ne peut pas les voler dans à la présidence. 2 millions dans la maison civile du chef de l'État. Et 50 millions pour un projet construit des sauts de moutons. Rien que ce petit calcul, on a 15 milliards 64 millions.
Mais pour l'instant, la justice ne l'a pas vraiment prouvé. On va passer sur ce qui est totalement actualité, puisque cette question de justice reste pendante encore.
Je n'ai pas parlé en termes de justice, je parle en termes de canalisation des fonds publics, des ressources qu'on a vers l'agriculture, par exemple. Vous voyez, ça ne demande pas les études. Ça demande une conscience, ça demande une volonté politique, ça nécessite une vision. En termes d'expertise, nous avons l'expertise. Parce que les Congolais ailleurs, il est expert. Je connais des Congolais en Indonésie qui ont étudié au même moment que des Indonésiens à Yangambi, ici à Kisangani, au Congo. Aujourd'hui, l'Indonésie est devenue premier producteur mondial de l'huile de palme, alors que c'était la position du Congo. Le Congo est rayé dans la carte. En Afrique du Sud, vous trouvez des experts congolais qui sont des médecins. Vous allez ailleurs aux États-Unis, il y a des ingénieurs congolais qui excellent là-bas. Mais mis ensemble ici au Congo, l'environnement de la gouvernance, les systèmes...
Encore le leadership. La vraie question, c'est le leadership. Lorsque l'on fait un peu le bilan de tout cela, tout ce dont on a parlé est négatif. Il y a quand même la culture. La musique congolaise, pendant ces 60 dernières années, a quand même rayonné sur le continent. C'est le succès, non, Floribert Anzoulouni?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que notre musique a réussi non seulement à rayonner au Congo, à s'exporter en Afrique, à s'exporter à travers le monde... Mais alors, une fois, tu me permets de répéter la même chose. Quelles sont les politiques qui ont été mises en place pour encadrer cela? La musique, la culture est un élément, est une force pour un État, est un élément qui doit être utilisé justement pour le développement de cet État-là, pour l'image, pour l'image de l'État. Aujourd'hui encore, malheureusement, la culture et la musique ont même été politisées. Et donc, même cette richesse que nous avions a finalement été politisé. Les artistes ne peuvent plus agir à l'extérieur parce que certains ont été politisés. Il y a d'autres Congolais à l'extérieur qui estiment que ce n'est pas acceptable. Et donc même là, nous sommes en train de détruire même ce qui a pu jusque-là marcher. Et ça affecte également la qualité de cette musique qui est en train finalement de se détériorer.
Al-Kitenge, si on devait dire en deux mots, qu'est-ce qu'il faut faire 60 ans après? On a fait le bilan, il est triste, il est négatif. Par quoi on démarre?
On démarre par une reprogrammation d'un logiciel social. Un, on a mis le parti politique. Il faut arrêter cette bêtise.
On doit revenir à quelque chose comme 10-15 partis politiques au grand maximum, parce qu'avec 1000 partis politiques, on ne peut pas s'en sortir. Deuxième, on doit engager la décentralisation et la mettre en application de manière réelle. Je ne crois pas que nos hommes politiques sont bêtes. Ils sont simplement prisonniers des systèmes pourris. Et la pourriture, c'est l'égoïsme. La troisième et la quatrième des choses, elle est tout aussi importante, c'est recentrer les politiques publiques sur le citoyen et le développement collectif. L'injustice vis-à-vis du rural, qui représente 80% de notre population, est une véritable folie collective. Et je crois simplement que nous sommes capables de le comprendre, parce que c'est tout simplement arithmétique.
Mais qui va donner l'impulsion? Qui, d'après vous, Innocent Kongo, va donner l'impulsion pour qu'on se mette autour d'une table, puisque vous parlez de se rasseoir, de rediscuter?
Alors, je voudrais dire ceci. Lorsque nous sommes malades, nous avons le choix. C'est ce qui nous arrive en Afrique, où on pratique l'automédication. Ça peut aboutir, comme ça peut conduire à des pertes de vie humaine. Ce qu'il faut, c'est aller vers un médecin pour que le médecin diagnostique le mal et qu'il vous prescrive la thérapie qu'il faut. Qu'est-ce qu'il nous faut comme thérapie dans le cadre de ce pays où finalement le diagnostic a été immensément fait? Chacun de nous sait ce qu'il faut faire.
On va vers qui pour vous? Qui est le médecin aujourd'hui?
Le médecin, c'est un leadership consensuel dans le pays avec un encadrement qui viendrait de la communauté internationale. Quand je parle de communauté internationale, je ne parle pas des pays. Je parle de la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, qui nous ont appuyés dans bien des cas.
Oui, mais dans le même temps, pendant plusieurs années, on a dit que les Nations Unies étaient complices du fait que l'on ait colonisé le Congo, qu'ils étaient complices de l'assassinat d'un certain nombre de leaders. Est-ce que 60 ans après, on va repartir vers eux? Est-ce que les Congolais eux-mêmes ne sont pas capables de désigner des personnes qui permettent de relancer la machine, de mettre enfin cette grande machine en route?
Est-ce que les Congolais eux-mêmes ne sont pas capables de désigner les personnes qu'il faut?
Qui va désigner?
Nous avons eu des rencontres dans le passé. Nous savons qui a été le déclencheur, comment s'est fait le déclenchement de ces actions. Je pense qu'il y a un potentiel de leadership dans ce pays lorsque le consensus est là, pour ne pas parler d'unanimité, lorsque le consensus est là pour nous conduire vers ça, sous le témoignage de la communauté internationale, mais dans une approche qui serait différente des approches que nous avons eues dans le passé.
Alors je vais m'adresser à Philibert Nzuluni, on va terminer dessus. Pour vous, qui est le leader ou qui sont les leaders qui peuvent aujourd'hui se dire « Asseyons-nous autour d'une table pour un projet qui soit un projet positif pour les 60 prochaines années ?» Vous êtes le plus jeune. Dites-nous qui, d'après vous.
Non, mais je vais peut-être être en contradiction, mais je ne pense pas que la multiplication des rencontres, dialogues et autres pourrait résoudre véritablement ce problème. Al l'a dit tout à l'heure, nous avons multiplié les dialogues, nous avons eu des acteurs qui se sont partagés le pouvoir, et ça n'a pas réglé le problème. Je pense qu'il faut simplement que les acteurs positifs, les citoyens positifs, qui ont l'aval des valeurs, qui ont une vision, qui ont des idées, envahissent l'espace autant politique, économique que social, pour qu'à un moment donné, nous fassions écrouler le système.
On va terminer là-dessus. Malheureusement, nous arrivons au terme de ce débat africain spécial 60 ans d'indépendance du Congo démocratique, en espérant que les dirigeants de ce vaste ensemble au cœur du continent seront, comme le souhaitait Joseph Kasavubu dans sa déclaration d'indépendance, enfin inspirés par Dieu dans l'intérêt de leur peuple et de leur pays pour les 60 prochaines années. Et qu'enfin, on passera du discours sempiternel sur l'extraordinaire potentiel à celui de richesse et développement réel. La dignité du Congolais passe par là. Merci Eve Bazaïba, Al Kitenge, Maître Innocent Kongo, Floribert Nzuluni pour votre participation et votre éclairage. Prochain rendez-vous du débat africain spécial indépendance, le 1er août pour les 60 ans de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. On espère que la pandémie aura reculé, les frontières ouvertes et que nous serons sur place à Cotonou. Mais en attendant, Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous dès samedi pour les archives d'Afrique consacrées à Massamba, débat du Congo Brazzaville. Et dimanche pour le débat africain où nous parlerons de la Côte d'Ivoire. Mais tout de suite, un nouveau journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. RFI, c'est...